Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, nouveau volet de l'émission Mode d'emploi, animé par l'équipe de la Fondation Copernic, comme tous les derniers vendredis du mois, avec pour présenter l'émission Mathieu Maury et Emmanuel Rongoit, ainsi que Claude à la technique. L'émission de ce soir est intitulée « Europe et crise, quelles alternatives ?» Pour en discuter, deux invités tout d'abord, François Chenet, qui est professeur émérite à l'Université Paris Nord, économiste, membre du conseil scientifique d'Attaque et rédacteur en chef de la revue Carré Rouge. Il a notamment publié en 2011 chez Raison d'Agir les dettes illégitimes quand les banques font main basse sur les politiques publiques. Et il est également membre du collectif pour un audit citoyen de la dette, dont on reparlera largement tout à l'heure. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes également avec Elisabeth Gauthier, qui est directrice d'Espace Marx, qui est membre de l'équipe de direction du réseau européen et de la revue Transform, qui est une revue qui est publiée en plusieurs langues. Combien de langues? 6 langues?
5-6 langues.
5-6 langues. Bonsoir, Elisabeth.
Bonsoir.
Vous pouvez retrouver le réseau Transform et la revue sur le site internet www.transform-network.org. Le dernier numéro de la revue est d'ailleurs intitulé « Europe, quel avenir ?». Donc les problématiques se croisent. Et puis en seconde partie d'émission, on discutera avec Mathieu Verboux, réalisateur du documentaire « La City, la finance en eau trouble » chez Zadig Productions en 2011. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous pouvez appeler l'émission au 01 40 05 06 10 et la retrouver ensuite comme les précédentes sur le site internet de la Fondation Copernic, fondation.copernic.org ou sur le site de Mode d'emploi. Avant de commencer l'émission de ce soir, nous allons continuer notre fil rouge qu'on a entamé à la dernière émission, à propos du dernier ouvrage, de la dernière note de la Fondation Copernic qui s'appelle Sarkozy, bilan de la casse, qui est une note qui présente sous la forme d'un abécédaire le bilan des politiques du gouvernement de Nicolas Sarkozy. L'idée étant que par un abécédaire, on présente de manière très synthétique, en une page, 1500 signes, les différentes politiques publiques qui ont été menées sur des grandes thématiques. Et ce soir, pour notre fil rouge, on a choisi une thématique un petit peu symbolique qui est celle des accidentés du travail. Alors Mathieu, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un accidenté du travail?
Un accidenté du travail, donc c'est une personne victime du travail. Et on peut même rajouter désormais que c'est une personne taxée pour cette raison. Sur la période 2002-2004, en moyenne, chaque année, 1330 personnes ont été victimes d'un accident mortel. 87% étaient des hommes et 13% des femmes. En chiffre absolu, les accidents mortels liés au travail ont touché surtout les secteurs de la construction, l'industrie et les transports. Au-delà de ces accidents, se pose également le problème des maladies professionnelles. Elles ont augmenté de 9% entre 2008 et 2009, ce qui représente 49 341 personnes. Et elles restent pourtant sous-évaluées de 70% selon un rapport officiel. Les plus récurrentes sont les affections périarticulaires, celles liées à l'amiante et les lombalgies.
Alors jusque-là, vous me direz que qu'est-ce que ça a à voir avec le gouvernement de Nicolas Sarkozy? Alors c'est là que vient le scandale, c'est que les victimes de ces accidents et de maladies du travail comptent parmi les plus mal indemnisées tout d'abord, c'est-à-dire que les réparations sont en général inférieures à celles accidentées de la route, par exemple. Et il faut croire que c'était encore trop, puisqu'en 2008, l'équipe du gouvernement de Nicolas Sarkozy a décidé d'imposer les indemnités journalières des accidentés du travail au nom de la réduction des niches fiscales. Parce qu'évidemment, c'était sans doute ces flemmards d'accidentés du travail qu'il fallait commencer par taxer. Gain de cette soi-disant niche fiscale, 150 millions d'euros. Et comme si ce n'était toujours pas suffisant, en 2011, l'équipe du gouvernement de Nicolas Sarkozy a décidé d'abaisser le montant maximal des indemnités journalières versées aux 25% des salariés du privé malade qui touchent plus de 2450 euros brut, ce qui fait environ à peu près un revenu de 1900 euros net. Voilà pour notre petit fil rouge sur les accidentés du travail, suite du fil rouge, la prochaine émission.
Donc on va entamer le thème de ce soir, la crise et l'Europe. François Chenet, on peut commencer par rappeler, expliquer un peu comment est apparue cette crise de la dette dont on entend parler depuis un an, deux ans. Comment expliquez-vous qu'on soit arrivé à ces taux de dette en pourcentage du PIB aujourd'hui?
Donc les racines sont lointaines. Les racines, on les trouve en fait, et par exemple dans le film dont il sera question tout à l'heure, c'est-à-dire dans un processus qui remonte aux années 60, en fait, et qui a vu la reconstitution de masses d'argent et accumulées notamment à la cité de Londres, qui cherchent à faire des profits par des prêts. Alors, pour faire des profits par des prêts, il faut qu'il y ait des emprunteurs. Et donc, il faut qu'on crée la figure de l'emprunteur. La première grande vague d'emprunteurs ont été et les malheureux pays du tiers-monde qui, à partir de 77-78, ont été incités à emprunter massivement et se sont retrouvés dans le piège de la dette à partir de la première crise mexicaine et qui ont connu une décennie perdue.
Ils empruntaient à qui à ce moment-là?
Ils empruntaient à des consortiums de banques situés à la cité de Londres et dont les coffres d'argent à valoriser se remplissaient de profits venant des multinationales américaines travaillant à l'étranger, mais aussi très vite de toute espèce de sources, y compris de flux de banques encore nationalisées, françaises, qui ont commencé à se faire les muscles en obtenant l'autorisation de transférer et des profits non employés vers Londres. Il y a eu différentes dérogations et les banques encore nationalisées se sont fait les muscles participant à ces consortiums de banques à Londres qui ont prêté aux pays du tiers-monde. Et à partir de là, s'est constitué cette puissance financière et qui a proposé de prêter aux États de proposer au gouvernement, et plutôt que de lever des impôts, de taxer les riches et de créer des mécanismes en réseau et dans lesquels finalement on emprunterait aux riches à travers et les fonds de placement mutuels, etc., les banques, plutôt que de les imposer. Et c'est ainsi que au cours des années 80 s'est créée cette situation et sur laquelle il faut être très clair. Et c'est une chose de faire un emprunt, de chercher un crédit d'une entreprise qui s'éteindra lorsque l'investissement viendra à fruition, et d'un particulier qui fait des remboursements réguliers jusqu'à ce que sa maison a été payée, de situations dans lesquelles on se met totalement dans la dépendance de groupes financiers et dans des conditions où peu à peu on tombe sur leur coupe et où le service de l'intérêt de la dette devient une fraction très importante du budget, du produit intérieur brut. Aujourd'hui, on est à une situation où en France, le service et des intérêts, le remboursement de la dette est devenu le premier poste budgétaire.
Dans l'éducation nationale.
On peut peut-être tout de suite faire intervenir la question européenne là-dedans. Je me tourne du coup vers Elisabeth Gauthier. La construction européenne s'est inscrite assez rapidement, on peut parler tout de suite des Maastricht, dans cette logique-là de fonctionnement économique.
Oui, je pense que avec l'Europe, on a en fait un condensé du néolibéralisme, parce que les 30 dernières années qui ont marqué quand même l'intensification de la construction européenne se sont faites totalement sous l'angle du néolibéralisme. Et si aujourd'hui on cherchait une sorte de forme étatique pure néolibéralisme, ben l'Union européenne ressemblerait assez à ça. C'est-à-dire, ce n'est pas comme nos États qui se sont constitués avec des luttes multiples, avec des contre-pouvoirs, avec tout un tas d'institutions où quand même il y a une certaine capacité d'intervention, de créer des rapports de force et des choses comme ça. C'est vrai qu'avec l'Union européenne, sous l'angle du néolibéralisme, on n'a pas ce type de construction. On a en France très bien saisi la difficulté et le risque que représentait ce type d'Europe en 2005 quand on s'est rendu compte que les règles générales étaient justement ce néolibéralisme pur avec mise en concurrence libre et non faussée, etc. On a bien décortiquer tout ça et combien on avait raison de refuser cette logique-là. Quelques années après, on est au désastre, on a devant nous un échec total de cela. Une chose que je voudrais rajouter à ce que disait François Chenet, dans les causes qui nous ont amenés à cette crise, qui sont effectivement de long terme maintenant, disons, qui ont une longue histoire, il y a aussi tout ce qui a alimenté à l'autre pôle de la société l'accumulation financière. C'est-à-dire, quand on regarde le putsch fiscal, on peut dire, tout ce qui était Copernic et Attac le montrent dans un document, à combien ça a reculé la part, disons, des recettes fiscales par rapport au PIB dans
contribuant à creuser la
France,
dette.
Voilà. Quand on regarde ces transferts de richesses qui ont marqué toute l'Europe, en fait, à peu près en moyenne 10 points qui ont été perdus du travail vers le capital. C'est des choses très concrètes pour les recettes publiques en dehors de la vie concrète des gens. C'est-à-dire, ça fait moins d'impôts, ça fait moins de rentrées dans les collectivités. Les collectivités territoriales aujourd'hui sont totalement étranglés de partout. On avait une réunion à Bruxelles il y a la semaine dernière avec des représentants d'une centaine de villes qui disent à quel point ils sont étranglés de partout. Donc
là, on a aussi des politiques publiques nationales, les idéologies mises en place au niveau national.
Absolument. Et donc tout ça, ça conduit à vraiment un échec total de cette stratégie néolibérale. Mais ce qui est dramatique, c'est que face à cet échec, il n'y a pas de changement de logique. Mm-hmm. Au contraire, on peut dire que c'est une fuite en avant. C'est une sorte de intégrisme néolibéral qu'on peut constater aujourd'hui dans la gestion de cette crise par les instances européennes.
Alors, avant de revenir, on va largement revenir sur cette gestion de la crise, sur ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. On peut peut-être revenir sur l'explication la plus récente de la crise, en tout cas. Qu'est-ce qui a créé la crise de ces dernières années, François Chenet?
La crise ces dernières années commence aux États-Unis. Commence par une situation où la masse des capitaux cherchant à se valoriser par des prêts et se rabattent à partir de 2003-2004 et de façon toujours plus intensive sur les ménages pour leur faire des prêts hypothécaires. Et on a une situation où autour de prêts hypothécaires se constitue une immense masse de titres finalement totalement fictifs et dont le caractère fictif éclate au grand jour le jour où le boom de la construction éclate aux États-Unis, où la construction recule, où les maisons ne se vendent plus, et où des gens très endettés et ne peuvent plus payer, et où on se rend compte que les banques, les fonds financiers qui ont ces titres et dans leurs comptes ont des créances Et irrécouvrable, totalement pourri. C'est ce qu'on appelle les subprimes. Mm-hmm. Et à partir de là, y a un processus de dislocation et partiel du système financier et qui a son apogée au moment de la faillite de la banque Lehman en septembre 2008. Mm. Et ensuite, on sauve les banques. Hein, on sauve les banques européennes en particulier, mais dans des conditions, maintenant c'est très très bien documenté, où on ne leur impose pas l'assainissement de leurs comptes. Hein, et où on les met dans des situations où la dette et des États, à cause du sauvetage des banques, augmentant de 15 à 20 points en un an et demi, ces banques qu'on a sauvées se proposent de prêter aux États, de prêter des taux d'intérêt très élevés. Hein. Alors, et c'est un système, et là encore, qui devait exploser, péter par l'anneau le plus faible. Les anneaux les plus faibles, ça a été la Grèce, puis le Portugal, l'Irlande, et des petits pays dans lesquels... Et à la fois l'État, mais aussi les particuliers, ont été incités à s'endetter, jusqu'au cou. Et là encore, constat fin 2009, début 2010, qu'une partie de ces États, que certains de ces États, étaient dans l'incapacité de payer, donc début des plans d'austérité qui n'ont fait que accentuer et la situation désastreuse de ces pays, et je m'arrête là. La Grèce a en 3 ans est passée d'une situation où elle commençait à être en récession à moins 1% du PIB, et aujourd'hui elle est à une récession qui est transformée en dépression profonde à moins 9, moins 10 points du PIB.
Alors on peut revenir peut-être maintenant justement sur cette gestion de la crise qui a été mise en place par les États et par les autorités européennes, qu'on va appeler comme ça. Alors là, je me tourne vers toi Elisabeth, il y a sans doute plusieurs choses à dire ou plusieurs plans à regarder. La gestion qui a été mise en place sur le plan du système bancaire et économique. La gestion aussi, on peut peut-être dire un mot sur le plan démocratique. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme
faut,
ça.
C'est même un plan antidémocratique qu'il faut vraiment mettre sur le devant de la scène, parce que en fait, on sauve les banques, comme tu l'as dit, mais en même temps, on transforme les États et on transforme même la construction européenne. Et ça, sans aucune consultation des parlements et des peuples. Et avec, en fait, une gestion de plus en plus autoritaire de cette crise. Et quand on prend aujourd'hui ce qui vient d'être donc soumis à, disons, quand même au Parlement, mais sous une telle pression qu'on ne peut pas parler vraiment de démocratie, le mécanisme européen de stabilité, qui en fait auquel les pays peuvent faire appel en cas de nécessité, mais seulement s'ils acceptent tout l'ensemble donc de la, disons, de la nouvelle gouvernance européenne.
Qu'est-ce que c'est, peut-être un peu plus précisément, sur le mécanisme européen de stabilité?
C'est-à-dire un État qui veut avoir accès à un fonds commun qui est alimenté par des États qui sont donc obligés d'y contribuer. État qui veut faire donc appel à ça, il doit d'abord complètement se soumettre des règles actuellement donc prônées par les instances européennes, même il faudrait dire par Merkel, Merkozy en réalité, parce que même les instances européennes sont aujourd'hui pas les premiers dirigeants de cette opération. Donc par exemple la Commission européenne, c'est pas elle aujourd'hui qui est sur le front. C'est pas le Parlement européen qui refuse d'ailleurs d'être exclu en fait du mécanisme, parce que ce sont maintenant des traités intergouvernementaux. Donc on n'est plus même dans les instances européennes qui existent aujourd'hui.
On est dans une
recherche de rapport de force d'un nouveau type où, en fait, dans ce type d'intergouvernementalité, Merkozy est un peu plus maire que Sarkozy, impose leur logique. Et donc, ça veut dire que tous les pays doivent donc introduire dans leur constitution
la fameuse règle d'or,
donc des choses qui, finalement, empêchent la prise d'initiative économique et sociale dans leur pays.
Cette règle d'or,
la règle d'or, ça veut dire que on réduit, disons, en fait, on constitutionnalise l'interdiction de faire des déficits, et ça veut dire que ça limite totalement la capacité d'un État d'intervenir sur le plan économique et social pour contrer éventuellement la crise, et donc ça enlève, par exemple, totalement la possibilité de relancer la croissance par une politique volontariste ou des choses comme ça. Et pour se rendre compte de ce que ça signifie concrètement, on peut dire que dès maintenant, en Grèce, c'est appliqué pleinement. Et tu viens de donner les chiffres. Donc, on voit bien que ça crée un cercle vicieux qui est absolument infernal. Et c'est vrai qu'en France, avec les élections, c'est peut-être un peu retardé. Mais une délégation de parlementaires européens de gauche qui était en Grèce hier, le Portugais, il a bien dit que dans un an, il s'attend à trouver la même situation au Portugal. Et ce que je veux dire, donc, c'est dans cette... En fait, dans cette logique néolibérale par la force, on est dans un moment, je crois, de confrontation de classe à l'échelle européenne, comme on n'en a pas connu, parce que il y a beaucoup de forces aujourd'hui qui s'utilisent la crise. Il faut que ça soit utilisé pour démonter totalement, et là je reviens sur la démocratie, et une sorte de démocratie parlementaire, sociale, qui existe, et aussi évidemment les acquis sociaux, tous les acquis d'après 45. Et donc on est dans un moment de confrontation extrêmement dur, avec des formes de plus en plus autoritaires qui font que notre lutte aujourd'hui en Europe, elle doit lier l'aspect social et démocratique, qui est donc en fait deux aspects d'une même médaille.
Pour se remettre de ce constat, on va faire une petite pause musicale avec Marlène de Lesco.
Le soleil et l'ouvrier se lèvent sans se plaindre. Dehors la première baisse. Le soleil et l'ouvrier.
Alors finalement, c'était Le Soleil et l'Ouvrier de Balbino Medellin. Il y a un petit problème technique.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paille, pluriel, 106.3
oui,
FM.
On continue sur l'Europe et la crise. François Chenet, quelles seraient les différentes solutions pour sortir de ces dettes illégitimes et se défaire de la dépendance aux banques et à ces dettes?
Enfin, la réponse de fond, c'est la mobilisation et une compréhension vraiment des enjeux comme on voit en Grèce, presque existentiels. Tout ça avec la médiation de la compréhension de la nature de ces dettes, de leur caractère odieux et dans le cadre de la Grèce et illégitime et dans le cadre et de beaucoup d'autres pays et dans le cas en particulier de la France et Elisabeth a fait allusion à la chute et vertigineuse de certaines formes d'impôts, d'impôts sur la fortune, l'impôt sur les revenus du capital, l'impôt sur les entreprises, et à partir de là, ce mécanisme dans lequel on coupe sur les dépenses en même temps qu'on qu'on s'enfonce dans la dépendance, dans ce service de la dette.
Donc c'est l'idée que cette espèce de contre-révolution fiscale, ça crée de la dette illégitime finalement.
Et elle est au cœur, oui, de la dette illégitime et accompagnée d'un certain nombre de dépenses qui sont des cadeaux aux plus grands groupes. Enfin, il y a beaucoup été question de Dassault et on ne peut pas dire à quel point et les dépenses militaires et les dépenses militaires en particulier en faveur du groupe Dassault, du groupe Thalès ou de Lagardère et sont des dépenses qui ont créé des forteresses du capital dans l'industrie mais aussi dans les médias et en même temps que il enfonçait la France dans la dépression. Donc la préparation de la mobilisation, nourrir l'idée qu'il faut se lever contre l'austérité, contre cette injonction de payer la dette, en créant ces collectifs citoyens pour...
Donc vous faites partie d'un de ces collectifs ?
Il y a un collectif national,
voilà.
Et maintenant, il y a, en l'espace d'un peu plus d'un mois, et plus de 100 collectifs locaux qui se sont créés dans toute la France.
Donc je rappelle, hein, ça s'appelle collectif pour un audit citoyen, www.audit-citoyen.org, pour
voilà.
Ceux qui veulent aller voir.
Et Frédéric, qui tient ce site très bien, a même mis une espèce de carte de la France avec les points où des comités se sont constitués, un petit peu à l'image... des comités pour le non.
Les collectifs unitaires de 2005.
Oui. L'idée, c'est celle-là. Le modèle, c'est celui-là. Pour essayer d'avoir des points d'ancrage pour que se développe cette résistance et cette colère populaire et qu'on n'attende pas en France d'être mis dans les situations où... les Grecs, qui ont résisté de façon fantastique jusqu'à présent, ont été mis.
Donc la première idée de lutte, ce serait alors d'abord changer évidemment la politique fiscale ou faire pression pour cela, et produire des mobilisations qui refuseraient de payer la dette, ou une partie de la dette en tout cas, au niveau national et ou européen. Est-ce qu'une autre solution aussi qui pourrait être portée par la gauche, ça, c'est pas non plus, enfin, qui l'est déjà d'ailleurs, c'est une fausse question, c'est de réformer le système bancaire, de changer notamment l'obligation d'emprunter sur les marchés ou l'interdiction faite aux banques, et notamment aux banques centrales, et je pense aussi à la Banque Centrale Européenne, de prêter aux États.
Le non-paiement de la dette ou d'une partie de la dette exige dans le même mouvement et de recollectiviser les banques, de les nationaliser, les mettre sous contrôle social.
Ça, de changer le mécanisme de contrôle.
Oui. Alors, comme les banques nationalisées... à la fin de leur étape de banque nationalisée, étaient devenues déjà des entités et largement indépendantes de l'État, en tout cas des citoyens. Et aujourd'hui, on utilise le terme socialisé. Je veux dire, il faudra qu'il y ait des formes vraiment de mise sous tutelle. Populaire Et c'est pas si difficile que ça. Une fois que le métier de banquier est vraiment réduit à ce qui est indispensable, la création de crédit à l'investissement en particulier, certaines formes de crédit aux particuliers, le crédit commercial, à partir de ce moment-là, il est facile à comprendre, il est facile à contrôler. Mais là, il faut casser beaucoup de choses, il faut casser la possibilité d'exporter vers les paradis fiscaux, etc.
Elisabeth Gauthier, vous, quelles sont les pistes que vous préconisez?
Bah, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, et je pense qu'il faut de l'autre côté aussi une grande relance côté social, c'est-à-dire les salaires. Quand on voit en Grèce, c'est l'extrême pour l'instant en Europe, quand les salaires grecs aujourd'hui descendent vers des niveaux de Roumanie ou de Bulgarie, quand ils sont réduits de moitié. J'ai des amis personnellement qui ont perdu la moitié de leur retraite. Bon, je peux pas développer maintenant, mais ça vaut la peine de regarder de plus près ce qui se passe, parce que c'est un exemple et qui ne restera pas isolé en Europe. Et pour les Grecs, c'est insupportable, et il faut être solidaire pour eux et pour nous-mêmes. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'on a besoin d'un nouveau type de protection sociale en Europe. L'année dernière était la lutte contre la pauvreté en Europe. Le résultat a été absolument zéro, au contraire, aggravation, parce qu'on ne peut pas lutter contre la pauvreté si on ne fait pas un grand nouveau système de protection sociale, services publics, etc. C'est assez évident. Et d'ailleurs, en tant que femme, je voudrais dire que les premières victimes de cette dégradation, ce sont quand même les femmes sur tous les plans, sociaux, services publics, etc. Et c'est on doit faire en sorte que les femmes deviennent des actrices d'une transformation en Europe. Donc il y a toutes ces questions-là. Il y a la démocratie à relancer sous toutes les formes. Et là, je veux insister sur un aspect, mais un peu ce que tu dis sur la dette et les nouvelles façons de contrôler les banques, ça va dans ce sens-là. La démocratie économique. On ne peut plus aujourd'hui laisser l'économie aux mains des financiers. C'est évident, et ça touche à la fois la finance, les banques, ça touche aussi les entreprises, leur pilotage, qu'est-ce qu'on décide, qui décide de quoi, etc. Donc il y a tous ces volets qui sont à développer. Et il faut trouver des formes de lutte qui correspondent à tout ça et qui nous aident surtout d'articuler des luttes au niveau national et à l'échelle européenne pour changer la logique partout. Il faut changer la logique en Europe et dans chaque pays.
C'est sans doute sur cette dernière question-là qu'on va s'arrêter. Donc effectivement, il y a des projets d'alternatives. Il y a beaucoup de critiques qui sortent. Il y a de l'analyse au niveau populaire, au niveau du mouvement social. Il y a des propositions d'alternatives. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment on fait pour porter ces solutions-là, notamment au niveau européen. Donc la question que je vous pose, Elisabeth, par exemple, c'est où en est le mouvement social européen? Je sais qu'il y a pas mal de réactions aussi qui se passent au niveau du mouvement social. Ceci dit, le mouvement social européen est quand même encore largement en retard par rapport à la construction à l'union des élites économiques, notamment, qui a pu se mettre en place depuis les années 80, 70 et même avant.
C'est vrai, comme on dit dans un article dans notre revue, la relation à l'Europe est difficile, parce qu'on ne peut pas dire non à l'Europe parce qu'on veut l'Europe, mais autrement, on ne peut pas dire oui à l'Europe telle qu'elle est. Donc on est toujours en train d'essayer de chercher quelle est la meilleure façon d'articuler les choses, et c'est un apprentissage qui prend du temps, et il faut qu'émergent des acteurs à l'échelle européenne dans leur complexité. Donc ça se cherche. Mais il y a quand même des choses intéressantes. Par exemple, le 29 février, c'est la première fois que la CES, la Confédération européenne syndicale, appelle à une journée européenne, mais en opposition directe à un nouveau traité. Ça ne s'est jamais produit jusqu'à présent, donc ça montre qu'il y a des choses qui montent.
Nouveau traité qui est prévu pour début janvier 2013, avec ce nouveau mécanisme
Avec ce qui est en train de passer partout aujourd'hui dans les parlements. Après, il y a une multitude de résistances. On peut prendre l'Islande, on peut prendre des choses vraiment formidables, comme l'occupation des places et tout ça. Moi, je veux parler un peu plus, peut-être, des choses qui sont moins connues et qui vont se passer dans la prochaine période. Bon, il faut qu'on fasse des délégations en Grèce. Donc, il va y avoir une délégation de mouvement social, syndicaliste, etc., la semaine prochaine. il va y avoir d'autres, des parlementaires, etc. Il va y avoir une conférence qui s'appelle Joint Social Conference. C'est un réseau qui s'est formé dans le cadre du Forum Social Européen, qui est composé de syndicalistes, de mouvements sociaux, Transform en fait partie. Et on va faire une conférence annuelle, cette fois-ci, en liant complètement la question des enjeux sociaux et démocratiques. Et ça se termine, en général, par des textes qui sont assez intéressants, qui sont des véritables plateformes d'action, de façon un peu plus poussée que ce que fait la...
d'alternatives et d'action.
Voilà. Et puis, la gauche européenne, c'est-à-dire il y a un parti de la gauche européenne et le Transform, qui a un réseau proche de ce parti, on veut organiser un processus autour d'un premier forum, un premier sommet alternatif européen. On en a marre de nous laisser... C'est plus qu'un contre-sommet, parce qu'on a fait des contre-sommets, on a fait tout un tas de choses comme ça. Maintenant, on veut montrer qu'on est quand même relativement avancé aujourd'hui. Il y a beaucoup de convergences. Qu'est-ce que serait une alternative en Europe? On n'est plus seulement à contester. On veut dire les logiques fondamentales qui devraient régir l'Europe et qui nous aideraient à sauver l'Europe, d'ailleurs, et à faire avancer les peuples en Europe. Et on veut donc tirer un sommet alternatif qui aurait un caractère plus offensif, une ambition plus grande que contester. Et on invite le 30 et le 31 mars à Bruxelles, disons le Parti de la gauche européenne et Transform, tous les réseaux, et il y en a déjà pas mal qui disent qu'ils vont participer, les acteurs européens pourraient participer pour créer ensemble une sorte de dialogue, parce qu'on se rend compte que les convergences sont grandes aujourd'hui. Et la Joint Social Conference va également prendre une initiative, elle aussi, pour inviter des forces critiques pour essayer d'aller dans le même sens. Et puis, peut-être, si on y arrive, on peut créer quelque chose un peu plus dynamique, parce que c'est le moment de l'alternative aussi. C'est le moment des résistances, mais c'est aussi le moment de l'alternative. Et ça demande un travail important. Et peut-être, si je peux juste terminer sur un point, c'est que je trouve que assez dramatique à voir les transformations du paysage politique en Europe dans cette crise. Parce que ça va quand même beaucoup à droite. La social-démocratie s'effondre en Grèce aujourd'hui. Le grand PASOK, il a des sondages de 8%. C'est la gauche critique qui monte, mais et aussi la droite extrême qui a fait son entrée vraiment dans le paysage politique. Et aujourd'hui, la droite populiste et extrême, elle est au cœur des sociétés, des paysages politiques et pas à la marge. On en sait quelque chose en France. Mais donc il y a besoin de créer une nouvelle ambition de gauche, évidemment critique, avec la construction actuelle et avec une alternative en tête. Et il faut qu'on travaille à ça. Et je pense que c'est la seule façon de faire reculer cette droite populiste et extrême qui s'appuie sur les divisions qui grandissent dans la crise.
Je pourrais Bien ajouter sûr. Juste ceci. À Thessalonique, il y a quelques jours, et tout le personnel de l'hôpital a décidé d'occuper l'hôpital, de devenir les gestionnaires, et de répartir les quelques ressources. Et comme ils pouvaient au mieux, de la façon la plus démocratique. Et je pense qu'on est dans une situation où il faut que le corps social, les salariés, les retraités et autant de parties de la jeunesse que possible se disent il faut se réapproprier. Il faut pas se contenter d'être appelé aux urnes tous les 5 ans, mais il faut se réapproprier de façon et quotidienne. Et il y a une dimension de la politique dans les moments de crise où si les citoyens s'en occupent pas activement tout le temps, et le pire leur arrive. Hein. Alors on est après des années de relative tranquillité, ou en fait des années d'affaissement lent, on est aujourd'hui vraiment dans à ce carrefour où il faut réagir directement ou des formes de démocratie directe et s'imposent.
C'est sur cet appel à la mobilisation qu'on va terminer cette première discussion. Merci à tous les deux, en tout cas. Et puis, on va faire une petite pause musicale avant de parler du documentaire de Mathieu Verboot sur la City, avec Léo Ferré et ainsi que Les Hommes Vivent.
Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis. Révolu.
Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. C'était donc ainsi que Les Hommes Vivent, une chanson de Léo Ferré, mais chantée par Jacques Delguéyère. Et on enchaîne sur sur le documentaire de Mathieu Verboot, qui est avec nous, pour son documentaire La City, la finance en eau trouble, chez Zadig Productions en 2011, qui est visionnable sur plusieurs sites internet. Le lien sera d'ailleurs sur le site de la Fondation.
On va écouter un premier extrait de documentaire, qui sera peut-être même le seul.
Londres est au cœur d'une galaxie de satellites. La dernière fois que nous avons compté le nombre de paradis fiscaux, nous sommes arrivés à un total de 60 pays, dont la moitié est directement issue de l'ex-empire britannique. Ils battent peu ou prou pavillon britannique et sont étroitement liés à la City of London. Ils fonctionnent sur le droit anglais. On recourt à des banques anglaises, dont beaucoup sont très présentes à la City. C'est cela qui vaut à Londres d'être à la fois la plus grande place financière et le plus grand paradis fiscal de la planète.
Mathieu Verboot, une première question. Comment la City est venue à vous? Qu'est-ce qui vous a amené à faire un film sur la City, sur la finance mondiale?
J'ai beaucoup travaillé sur des documentaires d'investigation aux États-Unis sur des sujets un peu, comment dire, secrets, on va dire. J'ai travaillé sur le marché de l'or nucléaire aux États-Unis, j'ai travaillé sur les néoconservateurs américains, j'ai travaillé sur des questions d'espionnage, j'ai travaillé sur les relations entre Israël et la Turquie, donc des choses dont on parle souvent peu, et j'ai retrouvé dans les différents documentaires que j'ai faits aux États-Unis toujours les mêmes types de puissances politiques, de groupements politiques qui avaient du pouvoir, parmi lesquels les marchands de canons, bien sûr, les néoconservateurs et surtout les ultranationalistes autour de Dick Cheney. J'ai fait un film sur Dick Cheney pour raconter comment il avait ingénieré, si je puis dire, la guerre d'Irak, qui est une guerre en éprouvette. Et je discutais avec beaucoup de gens des services secrets aux États-Unis sur ces questions-là, parce que c'est des gens qui connaissent bien les ressorts de pouvoir. Et à un moment donné, on parlait un peu des différents types de répartition du pouvoir dans la sphère américaine. Et il y a un aspect que moi, j'avais pas couvert, qui était la finance. Et à l'époque, des gens me disaient, je me souviens de cette phrase qui m'avait marqué à l'époque, il y avait Wall Street. Et en étant sur des sites internet très souvent, je suis inévitablement tombé sur des sites conspirationnistes, très souvent antisémites d'ailleurs, qui à un moment donné pointaient naturellement les méchants capitalistes, et tantôt il y avait une allusion aux juifs et tantôt il y avait des allusions à la City, et un jour je me suis amusé à voir qu'ils pointaient la City de Londres comme étant un endroit de pouvoir ultime. Et en l'occurrence, si on dégraisse un peu le discours conspirationniste, si on met tout ce qui peut avoir de nauséabond de côté, il y avait effectivement un spot, si je puis dire, qui n'avait pas été couvert. Et c'est un peu mon habitude, moi, d'aller dans des endroits qui ont été assez peu couverts. Donc, en l'occurrence, il n'y avait eu quasiment rien sur la City.
Justement, vous parliez du secret. C'est un film facile à faire pour avoir les informations ou pour interviewer des gens. Les gens parlent facilement.
Non, les banquiers parlent plus aujourd'hui, donc ça c'est un gros inconvénient. En dehors de ça, le seul problème qu'il y a lorsque vous tournez en Angleterre, notamment à Londres, c'est une anecdote, mais ça n'en est pas une vraiment, c'est l'omniprésence des caméras de télévision, et qui font que, de surveillance plutôt, pardon, pas de télévision, de surveillance, et qui font que, toute proportion gardée, on n'est pas en Roumanie à l'époque de Ceausescu, et je comparerai jamais l'Angleterre même de Thatcher avec La Roumanie de Ceausescu. Je suis pas un fou ni un révisionniste. Mais quand vous faites des reportages ou quand vous êtes présent dans des pays comme ça et que vous sentez ça, là, vous savez que vous êtes dans un territoire qui n'est pas totalement... vous le sentez de l'intérieur, quoi. C'est d'ailleurs une chose extrêmement pénible parce qu'en l'occurrence, sur les berges de la Tamise à Londres, vous ne pouvez pas filmer parce que vous avez toujours un ancien soldat. Alors des fois, c'est un Indien, des fois, c'est un Africain qui sont reconvertis, qui travaillent dans les boîtes de surveillance et qui arrivent immédiatement au bout de 10 secondes en vous demandant de retirer votre caméra. Donc vous pouvez filmer... Et quant à Canary Wharf, qui est l'extension de la City dans la zone des docks, Canary Wharf est intégralement un territoire privé. Donc si vous filmez quelqu'un sur un bateau, vous pouvez parler avec lui à la seconde où il met un pied sur la berge, sur la terre ferme, et que la caméra est là, au bout de 10 secondes, 2 minutes, vous avez un gardien qui est là. On ne peut pas non plus filmer les gares, puisque les gares, à cause de la crainte du terrorisme, ils sont évidemment truffés de caméras de surveillance, et les ponts qui passent au-dessus des voies de chemin de fer sont eux-mêmes surélevés pour que personne ne puisse balancer une grenade, mais aussi que personne ne puisse filmer. Et je me souviens de m'être retrouvé devant la gare de Paddington à avoir trouvé un petit spot où je voulais un plan de voie ferrée. Et on a mis un quart d'heure avant de trouver le plan de voie ferrée. Et au moment donné où j'ai trouvé le plan de voie ferrée, je me suis dit, bon, maintenant, on va chercher la prochaine caméra de surveillance qui va nous dénoncer infailliblement dans les 3 minutes. Et la première caméra de surveillance était à 1m50 de moi, devant moi. Donc il y en a partout.
Donc ça reste un environnement hostile. Très compliqué à filmer et assez hostile. Ouais. On découvre beaucoup de choses dans votre documentaire, notamment que la City dispose de privilèges politiques, mais aussi fiscaux et juridiques très particuliers, et que c'est un centre névralgique d'une nébuleuse de paradis fiscaux qui a permis notamment leur développement. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus? Comment est-ce qu'ils sont développés? Et puis à quoi ils servent? À quoi ils sont utilisés, finalement?
Il étant...
Les paradis fiscaux.
Il y a plusieurs questions dans la question. La City d'abord en elle-même? La City, c'est un objet politique, un des plus beaux objets politiques que j'ai pu voir de ma vie, parce que c'est une entité, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois dans des entretiens, qui, à ma connaissance, n'a jamais perdu un seul combat politique de son histoire. On a même du mal à l'imaginer. On connaît tous des grands hommes politiques qui ont eu des grandes défaites et qui, d'ailleurs, ont survécu ou ont surmonté des grandes défaites. La City n'a jamais perdu de son histoire. Et la City est au départ le lieu de la liberté démocratique. Et donc c'est ce qu'on montre dans le film, comment le lieu de la liberté démocratique a été le lieu de fondation du Parlement britannique,
oui.
A peu à peu été conquis par les puissances de l'argent. Et ces puissances de l'argent ont... Bon, après, il y a eu un phénomène d'accélération de l'histoire qui serait trop long à raconter là, mais il vient naturellement de la capacité que la City a eue de faire fructifier ses intérêts et de faire avancer son agenda, comme on dit dans les pays anglo-saxons. Il vient aussi du lobbying réussi de la City auprès des pouvoirs politiques, notamment dans les 50 dernières années. Mais je rajoute un point qui n'a peut-être pas été dit tout à l'heure, c'est que il y a du consentement là-dedans, il y a beaucoup de consentement. Je trouve ça un petit peu, limité de ne se focaliser que sur l'aspect criminogène de ça, parce que si on veut s'interroger sur les conditions d'irruption d'un système comme ça, il faut aller chercher partout là où les consentements sont faits. Et moi, personnellement, je pense que le peuple anglais est pro-capitaliste, et je le dis sans aucune critique pour le mot capitaliste, ils aiment ça, ils ont le business, dans leur culture, et il y a énormément de choses qui nous gênent, qui ne les gênent pas. Le droit de grève en Angleterre, depuis Thatcher, est extrêmement sévèrement contrôlé, et finalement les Anglais en fait avec. Or, c'est un peuple souverain, c'est pas un peuple particulièrement lâche ni rien, donc s'ils ont rien fait, c'est peut-être que ça ne les gênait pas. Et donc je pense que si la City a gagné, c'est pas uniquement par sa dangerosité ou son côté machiavélique ou parce que le fait qu'ils ont réussi à circonvenir les politiques, mais aussi parce que fondamentalement c'est quelque chose qui ne gênait personne.
Je pense que
François Chesnais,
il faut discuter ça sérieusement, parce que la Grande-Bretagne, l'Angleterre en particulier. Et ça a été quand même non seulement le berceau du syndicalisme, mais ça a été un endroit où des luttes ouvrières, de résistance, qui ont été battues et d'une très grande portée, et qui ont été isolés à l'époque, comme dans les mines, à Liverpool, chez les Dockers. Et je viens de l'Angleterre, et c'est aussi, puisqu'on est sur le terrain du cinéma, l'Angleterre de Mike Leigh et de Ken Loach, donc de gens qui n'acceptent pas. Donc l'idée d'un peuple qui accepterait dans sa totalité, ça je...
Dans sa majorité, pas dans sa globalité. Il y a toujours un nombre important de gens qui ne sont jamais d'accord, hein. Je ne dis pas tout le monde. Dieu merci que tout le monde n'est pas d'accord avec ça.
D'ailleurs, sur la fin de votre film, petite touche d'espoir quand même d'un intervenant qui dit que, avec une somme de petites réformes sur la city, sur les paradis fiscaux, et ben, on pourrait peut-être arriver à être moins dépendant et avoir un espace plus démocratique.
Oui, mais il le dit bien. Il le situe sur le temps de la construction de la muraille de Chine. Donc... moi, je trouve que
c'est pas pour demain.
C'est pas pour demain. Moi, j'ai beaucoup appris de lui, notamment y compris de sa méthode, hein, Christensen, qui est quelqu'un de très connu dans le monde de la lutte contre les paradis fiscaux. Mais on est vraiment face à une désintoxication on est des sociétés qui sont malades de la dette. Alors après, consenti, pas consenti, subrepticement introduite ou pas, c'est des vastes questions. Mais c'est un confort, ce type de drogue. Donc le temps que le monde anglo-saxon commence à avoir, ne serait-ce que le dixième du commencement du regard critique qui est porté dans cette pièce sur la finance, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps qui va passer.
On est un peu pris par le temps, donc on va se quitter là-dessus. On remercie Mathieu Verboot. On va se quitter sur un dernier extrait du documentaire.
Je trouve mon inspiration chez Franz Kafka et sa fantastique nouvelle sur la Grande Muraille de Chine. Cette muraille a mis des siècles à se construire. Et comment motive-t-on les gens pour un projet à aussi long terme? Il est très difficile de motiver les gens pour quelque chose qui n'avancera probablement pas beaucoup de leur vivant. Mais je vois beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme. Et même quand l'optimisme n'est pas là, on sent des gens intellectuellement habités, parce que nous savons que nous devons faire ça. C'est ce qui permet de maintenir en vie l'espérance humaine. Il faut identifier les failles dans lesquelles ces sociétés s'engouffrent, repérer toutes ces faiblesses réglementaires et les corriger les unes après les autres. Nous ne sommes pas face à un dragon que nous pouvons tuer d'une simple flèche bien ajustée. Nous devons découper ce dragon en tranches, depuis la queue jusqu'à la tête. Avec mes collègues du réseau pour la justice fiscale, nous avons identifié ces failles réglementaires. Une de ces failles réside dans la façon dont ces entreprises organisent leurs comptes. Elles ne sont pas transparentes. Elles ne révèlent pas où les profits ont été réellement faits dans les pays où elles opèrent. Eh bien, adoptons un nouveau standard comptable pour que l'on sache où les profits ont été réalisés. Et là, on verra que les profits n'ont pas été faits aux îles Vierges britanniques, mais en Afrique du Sud, en Zambie ou ailleurs.
C'était donc un extrait du documentaire La City en eau trouble de Mathieu Verboot. On se quitte pour ce soir. Je remercie nos trois invités. La prochaine émission a lieu le 30 mars sur le logement. On se quitte avec Jorge Drexler, Memoria del Cuero.